Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. L'homme est un loup pour l'homme. La formule est du philosophe anglais Thomas Hobbes. Elle date du XVIIe siècle, mais elle ne semble pas prendre une ride, malheureusement. Il y a les guerres, il y a le terrorisme, sans parler des meurtres, de ces meurtres particulièrement horribles, comme celui qui est jugé dès aujourd'hui, vous l'avez entendu à 11h à Genève, le meurtre d'Adeline. Il semble parfois que la cruauté de l'homme n'ait pas de limites. Alors comment expliquer cette cruauté? L'homme est-il foncièrement bon, comme le croyait Rousseau, ou plutôt mauvais, comme le pensait Hobbes? Et comment expliquer la fascination de l'homme pour la barbarie? Eh bien, nous allons le faire ce matin en plongeant dans l'histoire de la cruauté avec vous, Christophe Viomi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Société d'Histoire de la Suisse romande et vous avez dirigé ce livre, L'honneur au service du diable, crimes de guerre et cruauté ordinaire. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors juste peut-être un petit mot sur le procès qui s'est ouvert ce matin à Genève, du côté de Genève, donc le meurtre d'Adeline. Alors, il y aura de nouveau, on le sait, beaucoup de monde qui va suivre ce procès. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fascination? Est-ce que l'homme a toujours été fasciné comme ça par le sang, la violence?
Depuis que l'homme est homme, l'homme est effectivement fasciné par la violence. Les jeux du cirque à Rome sont un exemple extrêmement bien connu. Hein. Tacite en parlait par rapport au jeux du cirque, par rapport aux chrétiens qui étaient exécutés dans l'arène. Parlant justement de la cruauté, du plaisir des gens que le public avait assisté à cela. Au Moyen-Âge aussi, hein, on assiste à ce genre de choses. Souvent, pour le mariage d'un prince, on en profite pour faire une exécution, parce que ça attire les foules.
Donc ça assurait finalement au roi ou au prince qui se mariait d'avoir encore plus de monde, ou bien d'offrir, si on veut bien, une sorte de divertissement au peuple, c'était ça?
Ouais, c'est une question de marketing, si on veut bien. Effectivement, c'est un divertissement. Alors, dans les temps anciens, la cruauté n'avait pas ce caractère d'exception qu'on peut lui connaître de nos jours. Hein. C'était tout à fait ordinaire, c'était admis. Ça faisait partie de la vie de tous les jours, si on veut bien. Mais évidemment, assister à une exécution, quelle qu'elle soit, avait toujours un côté spectaculaire. D'ailleurs, la dernière exécution capitale dans le canton de Vaud, d'un droit commun, c'était une décapitation à attirer les foules. Et on était encore au 19e siècle.
Mmh. Et c'est des gens qui venaient même au-delà du canton de Vaud, je crois, vous m'avez dit.
Ah oui, on venait de loin, bien sûr. Oui, ça attire, bien sûr. Mais c'est le principe actuel aussi de certains médias. Hein. J'entends regarder les films à Hollywood. On fait recette avec la violence, avec le sexe, bien sûr. Bruce Willis, c'est beaucoup plus sympa de voir flinguer des gens que d'assister à une émission de Bernard Pivot, j'en sais rien.
Quoi, ça dépend des goûts. Hein.
Ça dépend
Bernard
les goûts.
Pivot, c'est pas mal aussi. Christophe Viomi, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit, mais à l'époque, la violence était beaucoup plus présente. Vous avez l'impression que c'était vraiment une des sociétés beaucoup plus violentes. Alors, ça dépend de quoi on parle, mais disons, dans un passé assez lointain, vous parliez peut-être de l'époque romaine.
C'est pas forcément plus violent, on n'y était pas. Il y a des remises en question, par exemple, sur la cruauté des jeux du cirque, sur la cruauté des empereurs. Je reviens à Tacite. Tacite le dit, hein, il explique que les chrétiens qui sont tués dans l'arène, c'est pour le plaisir et la cruauté de l'empereur plus que pour la foule, parce que parmi la foule, des gens se sont heurtés par cette cruauté tout de même.
Ah déjà.
Déjà, bien sûr. Mais c'est les conditions de vie. Hein. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'il y ait une remise en question avec tous les discours sur le geste, sur le comportement qui fait évoluer la civilisation, les mœurs. D'autres historiens l'ont mis en évidence. Hein. Je pense à Norbert Elias. Combien même ces thèses sont remises en question à présent, mais il l'explique bien, cette espèce d'évolution qui intervient avec le refoulement de la pulsion et puis la mise en place d'un état central. Mmh. Freud le dit aussi, la pulsion pour le meurtre est première, la morale est une construction historique qui est secondaire.
Mmh. Donc l'homme finalement, si on entend Freud notamment, cette pulsion elle est là quoi. Je veux dire, après il faut la maîtriser, peut-être l'État ou quelqu'un d'autre, une force supérieure nous aide à la maîtriser, mais cette violence, cette pulsion en tout cas violente ou peut-être meurtrière dans certains cas, elle est là.
Ah, l'histoire le démontre, l'actualité aussi je crois. Il y a une théorie assez intéressante, assez amusante d'un, alors pas du tout d'un historien, mais d'un généticien qui s'appelle Miroslav Radman. C'est une sommité, hein, dans son domaine, c'est un académicien. Et qui parle de la théorie sur les générateurs de frontières. Alors évidemment, on est au niveau des gènes. Et il développe un concept de la répulsion. Il propose une transposition de son concept au niveau social avec son idée de comportement répulsif qui serait spécifique à l'homme. L'homme qui va mettre en œuvre cette répulsion par des massacres et par des actes de cruauté. Évidemment, il fait référence à ce qui s'est passé dans les Balkans ces dernières décennies.
Là, vous parlez des Balkans. Christophe Vieumier, est-ce que, vous qui êtes historien, est-ce que la cruauté, d'après ce qu'on peut voir dans les textes, est aussi vieille que l'homme? Est-ce qu'il y a des témoignages très anciens de cruauté?
Alors, comme ça, les témoignages auxquels je pense, mais là, il y a quelqu'un d'autre qu'il faudra entendre sur le sujet, c'est des gravures peut-être en Égypte ancienne où on voit le pharaon qui met à mort l'ennemi. Alors là, il y a tout un rituel, hein, c'est très iconographié. Et c'est la propagande. Ben, on assiste évidemment dès la plus haute antiquité à des massacres ordonnés. Les Assyriens en Mésopotamie prenaient une ville et passaient tout le monde à la décapitation. J'entends, c'était voilà.
Assez radical, hein.
Assez radical.
Alors dans votre livre, hein, ce livre que vous avez co-dirigé, que vous avez dirigé, pardon, eh bien vous intéressez plutôt à la cruauté en temps de guerre. C'est parce que c'est là finalement que la cruauté est la plus visible, la plus forte. Pourquoi ce choix?
Ah oui, le temps de guerre, c'est un temps d'exception. Un temps où les règles de la morale ont tendance à tomber. Il n'y a pas une guerre propre, ça n'existe pas. C'est une théorie qui est faite pour faire plaisir certains généraux du monde occidental, mais une guerre propre n'existe pas. Il y a forcément des massacres, il y a forcément l'horreur qui est là, parce que c'est une guerre, parce qu'il y a mort d'hommes. Et parmi eux, plein d'innocents. Alors, ce livre, comme d'ailleurs tous les livres, a sa propre histoire. Il traite de la bataille de Marseille, hein, 1944, et la confrontation des deux protagonistes, le général allemand Hans Schäfer et le français Montsaber. Et Claude Bonnard, qui a été l'historien qui a travaillé sur cet épisode-là, essaye de déterminer si le général allemand qui était en poste à Marseille est criminel de guerre ou pas. À savoir que cet officier n'a jamais passé par le tribunal de Nuremberg.
Officier de la Wehrmacht. Hein.
Officier de la Wehrmacht, absolument. Mais que précédemment à son affectation à Marseille, il était sur le front de l'Est. Mais évidemment, il est arrivé sur des théâtres d'opérations après les massacres, systématiquement. L'histoire ou le hasard fait que il est arrivé après les rafles, après les génocides, etc. Alors voilà, donc le développement de ce passage-là sur cette guerre, sur ce personnage, et de savoir s'il a été ou pas criminel de guerre. Mais évidemment, au travers de cet exemple, on peut s'apercevoir que la guerre génère systématiquement massacre et crime.
Ce qui est aussi assez clair dans votre livre, c'est écrit là-dedans, c'est qu'il y a il y a les cruautés, mais après il y a aussi la vision qui peut être fortement modifiée en fonction du regard, et notamment la vision des vainqueurs, la position des vainqueurs est très dominante. D'ailleurs, il y a des massacres dont on se souvient particulièrement, et il y a d'autres qui ont été un petit peu, dont on se souvient un peu moins. Je crois qu'il y a l'exemple du massacre de Katyn, donc ce massacre qui a été fait par les Russes durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a longtemps été controversé, mais en gros, c'était maintenant c'est très connu, mais pendant longtemps c'était pas si connu que ça, et ça arrangeait pas forcément dans l'historiographie d'en parler.
Toute l'histoire, toute la grande histoire, c'est évidemment l'histoire bataille et les grands conquérants. Il n'y a pas un seul qui n'ait pas laissé une traînée de sang derrière lui et dans sa conscience. Katyn, oui, effectivement, Katyn, c'est un massacre d'officiers polonais commis par les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est évidemment un épisode qui n'est pas du tout évoqué par les commissaires russes à Nuremberg lors du grand procès. Justice des vainqueurs, c'était un problème, ça peut encore le rester. Le tribunal de Nuremberg a été une nécessité, bien évidemment, parce que les actes commis par les nazis étaient tels que on ne pouvait pas laisser passer la chose. C'était une nécessité absolue. Mais à la lumière de l'histoire, évidemment, il y a ce jugement des vainqueurs. Maintenant, les accords, je vais pas rentrer trop en la matière parce que je suis pas spécialiste ni juriste, mais les développements de ces dernières décennies avec les accords de Rome, par exemple de 99, permettent de prendre plus de recul en fait. On fait appel à des juges, si on veut, bien, qui sont neutres, beaucoup plus neutres qu'ils ne l'étaient avant. C'est plus jugé parti comme ça pouvait l'être.
C'est moins une justice des vainqueurs, une justice qui se veut neutre. Vous faites référence, je pense, à La Haye.
Exactement. Exactement.
Ouais. Pour l'instant, ça fonctionne. On n'a pas l'impression que ça fonctionne aussi très, très bien. Il y a peu de jugements vraiment probants, des choses qui ont marqué peut-être l'opinion publique. Il y a quelques jugements, mais disons que comme ça, on n'a pas l'impression d'une justice qui fonctionne aussi, qui serait la panacée complète, disons.
Non, là, il faudrait écouter Dick Marty, lui en parlerait beaucoup mieux que moi. Mmh. Effectivement, c'est très difficile à mettre en œuvre. Si vous pensez à certains conflits contemporains qui sont complètement passés aux oubliettes, où des gens meurent, où des gens sont emprisonnés dans des camps de concentration, mais évidemment, ça passe pas aux médias et ça n'intéresse pas parce que les intérêts occidentaux notamment, ben, sont pas là, quoi.
Et après, c'est vrai qu'il y a souvent des intérêts politiques. Si on prend un meurtre classique d'une personne, il y a moins d'intérêts politiques souvent en jeu, mais quand c'est des états entiers, quand c'est des régions entières, on a des fois plus ou moins intérêt qu'une personne ou qu'un général soit condamné en fonction des desseins qu'on a pour la suite de son pays.
Alors oui, ben on a quand même quelques exemples au cours de ces dernières années hein, de gens qui sont passés par La Haye, notamment des anciens criminels de guerre, de la guerre dans les Balkans. Mm-hmm. On espère que ce sera aussi le cas avec la Syrie.
Mm-hmm. Vous évoquiez Dick Marty, on va parler tout à l'heure, juste après cette chanson.
Ne venez pas cogner ce soir, contre ma porte je ne serai plus celui qui vous a dit au revoir hier avant de vous quitter. Marche après marche au fond de moi-même, je vais descendre l'escalier pour aller nourrir mes hyènes. Tout à l'heure, le sang va couler et c'est comme le chant des sirènes, comme une langueur, un mystère, comme un appel, un baiser, on ne peut y échapper. Parfois quand je les entends qui hurlent leur faim immense au fond de moi, j'aimerais ouvrir ce ventre qui brûle, les faire taire pour une fois. Mais je n'en ai pas la force et même y trouverai-je le repos. Ce soir j'irai nourrir mes hyènes, déposer une vie sous leur croc. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme promesse douce de pouvoir se reposer. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une langueur, un mystère, on ne peut y échapper. Vous si belle et moi comme un ver, quelle autre peau pourrais-je caresser? Je me promène sous la terre que vous foulez de vos pieds. Demain je serai de nouveau l'homme que vous connaissez maintenant, monsieur tout le monde en quelque sorte libre. Pour combien de temps à chacun sa fuite, son enfer? Je ne connais que trop la mienne. Je passerai sous vos fenêtres en allant caresser mes hyènes. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une langueur, un mystère, on ne peut y échapper. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une promesse douce de pouvoir se reposer. Un baiser comme une langueur, un mystère, on ne peut y échapper. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une promesse douce de pouvoir se reposer. Et c'est comme, et c'est comme, et c'est comme.
Si Thierry Romanon, c'était Les Hyènes. Nous sommes en votre compagnie, Christophe Vuillemy, et ce matin, nous parlons de la cruauté. Alors, on a évoqué les balcons, on a évoqué aussi Dick Marty, l'ancien procureur tessinois, qui signe la préface de votre livre, et il dit, il y a une notion qui intrigue quand même, c'est la notion de crime de guerre. C'est vrai que c'est comme s'il y avait des crimes qui étaient un peu graves, et puis d'autres qui sont moins graves ou plus graves. C'est vrai qu'il y a une sorte d'antinomie entre ces deux concepts de la crime de guerre. Comme une violence un peu autorisée, celle qui était militaire, et l'autre qui ne l'était pas.
La guerre est soumise à des lois, hein, depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. Et évidemment, on n'a pas le droit de déroger à ces lois en temps de guerre. On le fait systématiquement, hein, cela étant. Mm-hmm. Mais par exemple, c'est les baïonnettes. On n'a pas le droit de denter les baïonnettes parce que ça fait des blessures qui sont considérées comme insoignables. Ça a été proscrit par les lois de la guerre.
Dans le temps, c'est étonnant parce que la guerre, vous l'avez dit, la guerre, voilà, c'est là le défoulement de la violence, il y a des choses affreuses qui s'y passent, et on sait qu'il y a des morts, forcément, mais on réglemente, voilà, on peut pas utiliser une baïonnette, mais on peut utiliser un fusil, on peut pas attaquer les civils, mais on peut tuer d'autres personnes. C'est vrai que ça peut quand même être étonnant. On tue des gens, que ce soit finalement des militaires ou des civils, on tue des gens.
Alors bon, il faut peut-être différencier. Il y a plein de notions qui sont assez compliquées. Il faut déjà différencier une guerre totale, comme peut l'être la Deuxième Guerre mondiale, d'une guerre ancienne, traditionnelle, qui se passe entre soldats, entre armées. Et puis après, il faut différencier les armées régulières. On pensera à la Wehrmacht du côté allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis des corps formés comme la SS, hein, qui interviennent en marge de l'armée ou de l'autre côté, si on veut bien, les partisans. La guerre des partisans, ça c'est même une notion juridique, me semble-t-il, qui est très très compliquée à juger. Alors, les partisans ou les francs-tireurs, comme on les appelait au début du XXe siècle, évidemment, pendant la Première Guerre, c'était les Belges, hein, et les Allemands qui capturaient des francs-tireurs, les exécutaient systématiquement parce qu'ils étaient considérés comme terroristes, je mets les guillemets. Ensuite, on a considéré les francs-tireurs comme réguliers s'ils abordaient sur leurs vêtements une marque respective de leur armée. Alors évidemment, il faut se remettre dans les réalités du terrain. On est très loin des alcôves et des bureaux chauds et douillets d'un juriste ou d'un historien. La réalité du terrain, c'est pas du tout ça. C'est très difficile. Mmh. Et c'est difficile d'avoir une cocarde sur son épaule, enfin, une cible magnifique. La guerre des partisans, c'est le problème parce que on va tuer des civils qui sont armés, et puis on va en profiter pour tuer d'autres civils pensant qu'ils sont armés, qui ne le sont peut-être pas, et puis là on tombe dans le crime de guerre. Oui.
Mmh. Alors, ce qui est intéressant, on parle de crime de guerre et de cette notion de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Alors, on a souvent l'image de la Russie, peut-être une nation dure, cruelle parfois. Or, eh ben, vous me l'avez appris, c'est les Russes qui sont à l'origine des premières définitions de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire en tant que guerre.
Ah oui, l'instigateur, c'est Nicolas de Tsar, à la fin des années 1890, qui... c'est l'époque des États-nations, on s'arme beaucoup... Il y a une compétition entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc. Et c'est la course au canon, si on veut bien. L'exemple de Solferino, 1859, est encore très frais dans les mémoires. Aux États-Unis, la guerre de sécession vient de se terminer. Et Nicolas II est un peu inquiet de cette course aux armements. Paradoxe. Et il va proposer en fait une conférence internationale pour essayer de réguler ça, pour essayer de mettre les différents États européens autour de la table pour discuter, pour se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire absolument. Et ça va être les premiers accords de La Haye, 1899, qui vont être suivis par la suite, 1906, 1907, etc., par d'autres accords, hein, ceux de Genève, puis ceux de La Haye de nouveau.
Alors ça vaut pour la guerre conventionnelle, si on veut bien. On se rend compte, si on regarde maintenant le 21e siècle, c'est compliqué parce qu'on a affaire tant à des conflits, si on prend la Syrie, très complexe, avec beaucoup de composantes semi-civiles, semi-militaires, et puis aussi le terrorisme qui qui est aussi, voilà, par définition, s'attaque aux civils. Et donc, c'est hors normes classiques. Il y a une forme de cruauté aussi. D'ailleurs, quand on est terroriste, on essaye d'être le plus cruel possible pour marquer l'opinion, pour avoir un écho médiatique et que ça fonctionne, que la cause, ou en tout cas l'effroi, soit bien là.
Ah ben, le terme le dit lui-même, terrorisme. On veut initier la terreur chez l'autre. Mais finalement, ça c'est une stratégie qui est vieille comme le monde. Hein. Les Gaulois faisaient sonner des cors pour effrayer les légions romaines quand ils allaient charger. Les Américains, je crois que pendant la première guerre du Golfe, faisaient pareil en montant des haut-parleurs et en passant de la musique très fort pour effrayer. Je me souviens plus très bien de cette histoire-là. Mais c'est vraiment une stratégie qui est commune. Effrayer l'autre, prendre le dessus psychologiquement. C'est aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les messages radiophoniques que les Japonais lançaient dans le Pacifique pour les armées, la flotte américaine, etc. On essaye de saper le moral de l'autre, de lui faire peur. Alors évidemment, le terrorisme de nos jours prend des contours qui sont absolument intolérables, puisqu'ils s'en prennent à des victimes innocentes, des civils qui n'ont strictement rien à voir à faire avec les intérêts concernés.
On parlait tout à l'heure de ces grands massacres, Christophe Vuillemier, et ce qui est marquant, c'est que la mémoire collective retient certains massacres et d'autres pas. Il y en a un qui est très connu, par exemple, c'est celui de la Saint-Barthélemy, qui date quand même du XVIe siècle, donc c'est ces protestants qui se sont fait massacrer. Par exemple, pourquoi on se souvient de celui-là? C'est quoi? C'est une question d'iconographie? Beaucoup d'artistes ont peint là-dessus, ou pourquoi?
Alors ça, la Saint-Barthélemy, qui se passe le 24 août 1572, C'est le sommet du blues, si vous voulez bien. C'est un sommet de violence. C'est des familles qui se déchirent, des voisins. On s'en prend à. C'est un accès de folie, voilà, qui s'empare de Paris cette nuit-là, où les catholiques vont passer au fil de l'épée tous les protestants. Le Coligny, qui est amiral, va se faire déchiqueter en morceaux. On va prendre les quartiers à tous les coins de la ville. Évidemment, ça va rester dans les mémoires très longtemps, mais c'est un épisode à remettre dans le contexte des guerres de religion. Les protestants vont s'en souvenir très longtemps. Suite à la Saint-Barthélemy de Paris, il va y avoir des échos dans les villes de province, avec des massacres secondaires qui vont se dérouler. Et ça va rester très longtemps, très longtemps dans la mémoire. On va faire des iconographies, des gravures de la chose qui vont passer et on s'en souvient encore de nos jours. Il y a plusieurs massacres comme ça qui restent.
Il y a bien sûr la Shoah qui est déjà plus récente et qui dans son ampleur est aussi énorme, donc la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a des cas complètement méconnus. Vous m'avez parlé du massacre des Béducs, c'est ça?
Alors il y a les Béotucs.
Béotucs, pardon.
Béotucs, alors ça c'est évidemment un des effets de la guerre coloniale, si on veut bien. C'est une peuplade de Terre-Neuve qui se fait décimer vers 1830-1820 complètement par les Anglais. À tel point que même leur mémoire est complètement éteinte. J'entends, il faudra quelques carnets de notes d'officiers racontant la campagne, l'existence de ces gens pour s'en souvenir. Mais des peuplades comme ça, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup.
Un exemple de cruauté très forte, c'est les camps de concentration. Alors, quand on pense camps de concentration, on pense d'abord à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas du tout les Allemands qui ont inventé les camps de concentration, Christophe Vuillemier.
Il y a eu un débat récemment à Paris sur le terme camp de concentration. On parle de camp de concentration déjà au début du XXe siècle parce que c'est un endroit où on concentre les gens. Si vous voulez, un camp du CICR où on fait venir des réfugiés, on pourrait dire c'est un camp de concentration. On concentre les gens là. Évidemment, ce qu'on va faire de ces gens, la destination est légèrement différente que ce que les nazis en ont fait. Maintenant, camp de concentration prend cette acception absolument horrible. Premier camp de concentration, c'est pas les Anglais, comme certains le pensent très souvent, mais c'est les Espagnols qui l'ont ouvert en 1895-96 à Cuba. Et c'est un général espagnol qui revenait en fait d'une campagne en Chine, la fameuse guerre contre les boxers, et qui veut appliquer des méthodes extrêmement fermes parce qu'il veut liquider une révolte qui se passe à Cuba très rapidement et qui, pour mater la révolte, veut instiguer la terreur. Voilà. On revient sur le concept de terreur, et il va ouvrir un camp de concentration où les gens vont mourir par milliers.
Et donc après, il y a eu une sorte d'exemple, les gens ont suivi ça, ou bien on a découvert après coup que c'était eux qui avaient inventé, il y a eu une forme de publicité qui a été faite autour de ça, ou bien ça a été découvert que plus tard?
Alors, ce général espagnol a vite été rappelé à Madrid, parce qu'on n'a pas du tout apprécié en Europe ce qu'il faisait. Et on a fermé le camp. Bon, dans l'intervalle, il y a quand même eu des milliers de morts. Les Allemands s'en sont servis, puis les Anglais, au début du siècle, d'abord en Namibie, et puis ensuite en Afrique du Sud. Pour rappel, Angela Merkel, l'année passée, reconnaissait le drame de ces deux populations autochtones qui avaient vécu ces horreurs il y a plus de 100 ans.
Mmh. Namibie, ancienne colonie allemande.
Ancienne colonie allemande, absolument. Mmh. Et puis évidemment, les nazis s'en sont servis 30 ans plus tard.
Mmh. On arrive déjà bientôt à la fin de cette émission. Christophe Vieux-Mire, il y a ce débat philosophique entre la vision du bon sauvage de Rousseau et celle plus pessimiste de Hobbes, comme quoi l'homme est un loup pour l'homme. Vous, alors vous êtes historien, mais j'ose vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que vous pensez que l'homme est foncièrement bon ou foncièrement mauvais? Voilà, en 15 secondes.
Question religieuse ou philosophique. Moi, je pense que l'homme est capable du pire comme du meilleur, en fonction de ses, en fonction du contexte, en fonction de son champ de référence, en fonction de ce qui va le solliciter ou le motiver. Je pense que chacun d'entre nous peut être capable du pire, c'est-à-dire commettre un massacre, si on le met en condition, voire du meilleur.
Ouais, c'est un peu ce qu'a dit Anna Arendt, il me semble, la banalité du mal.
Banalité du mal. Ouais,
excellent livre. Merci beaucoup en tout cas, Christophe Vieux-Mire, d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la Société d'Histoire de la Suisse romande. Vous avez dirigé ce livre, L'honneur au service du diable, crime de guerre et cruauté ordinaire. C'est coédité par Slatkin et la Société d'Histoire de la Suisse romande. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
Merci à Isabelle Barthes qui était à la technique ce matin. Et demain, nous poserons cette question essentielle. Mais qui gouverne le monde? Et tout de suite, place à Laurence Bison et à ses décodeurs. Je vous souhaite la plus belle des journées.